Răscrucea Europei.
Stavrodromii της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une émission un petit peu exceptionnelle avec une fois n'est pas coutume, un seul invité que vous pouvez déjà découvrir en direct et en vidéo sur la page Facebook RFI, sur la chaîne YouTube RFI et sur le site RFI.fr. Sur les questions européennes, il est l'homme qui chuchote à l'oreille du président. Il a été des années durant son conseiller Europe, son Sherpa comme l'on dit. Il a participé à tous les sommets bruxellois, côtoyé tous les leaders européens, rédigé en grande partie les discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Il est aujourd'hui le secrétaire d'État aux affaires européennes. Bonjour Clément Beaune.
Bonsoir.
Vous êtes un jeune secrétaire d'État. Vous avez été nommé en juillet dernier. Vous êtes encore dans la trentaine, hein, 39 ans exactement.
Vers la fin.
Ça veut dire que la quarantaine vous guette. Mais à l'échelle de l'Union européenne, vous êtes un tout jeune puisque l'âge médian en Europe, c'est 43 ans. Il y a autant d'Européens qui ont plus et moins de 43 ans. Vous êtes encore dans la très bonne tranche d'âge. Vous êtes secrétaire d'État et pas ministre en titre, ce qui peut surprendre de la part d'un président très européen qui n'a octroyé qu'un secrétariat d'État à ce qui est pourtant un thème central de sa politique. Alors si on compare les anciens combattants bénéficieux d'un ministre délégué, c'est un peu frustrant, non ?
Non, et vous savez, il y a un ministère qui était une création du président justement au nom de sa priorité européenne, de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian étant le ministre, et dans cette équipe, moi je suis en charge plus spécifiquement des affaires européennes, donc vous voyez, ce ministère de l'Europe, avec l'Europe en premier, pour mettre cela avant même les affaires étrangères, ça montre bien la priorité que le président donne, et on y travaille ensemble.
Alors Clément Beaune, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, et je ne vais pas vous demander si vous êtes amoureux de l'Europe, quoi que je pourrais le faire, mais vos premières émotions européennes datent de quand ?
Écoutez, souvent le sentiment que c'était de la période de 1989-1991, ces années-là.
La chute du mur.
Moi,
l'éclatement de l'Union soviétique.
Oui, exactement. J'étais enfant. Il y avait en fait la chute du mur, bien sûr, mais beaucoup d'événements qui se précipitaient, une forme de carambolage de l'histoire, si je puis dire, avec la révolution roumaine, moi qui m'avait beaucoup marqué, ces images très, très dures. On voyait des régimes qui chutaient, un monde qui basculait, une liberté aussi qui était revendiquée, qui se retrouvait en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Roumanie, en Union soviétique, dans les pays baltes. Toutes ces images-là, qui parfois se télescopent un peu dans ma mémoire, c'était l'actualité politique.
Alors vous aviez 9-10 ans à l'époque.
J'avais 8 ans au moment de la chute du mur et 10 ans en 91, donc c'est à peu près ça.
Alors, vous avez poursuivi Erasmus en Irlande, le Collège d'Europe de Bruges, qui est une sorte d'ENA européen. Vous avez évidemment fait suivi l'ENA aussi. C'est à Bruges, au Collège d'Europe, que vous avez développé cette citoyenneté européenne ?
Honnêtement, non. J'étais étudiant dans ce Collège d'Europe, qui est un beau projet d'abord d'après-guerre, qui a été créé avant même Erasmus, en 1950, donc très vite après la guerre, avec l'idée à l'époque un peu folle de faire étudier, mais aussi vivre physiquement pendant un an, des gens qui avaient fini leurs études de France, d'Allemagne, d'Italie principalement à l'époque, pour qu'ils se retrouvent un moment à étudier. Ça a bien changé, mais la littérature européenne, la peinture européenne, les arts, les humanités, comme on disait, et j'aime bien ce terme, pour se rendre compte qu'ils avaient une culture européenne commune à partager. Et voilà, cette institution s'est prolongée. Moi, je l'ai fait dans cet esprit. J'ai jamais eu l'intention, contrairement aux caricatures qu'on fait parfois de ceux qui aiment l'Europe, ou s'intéressent à l'Europe, des Européens, des Bruxellois, moi, j'ai jamais eu l'ambition de travailler, par exemple, dans les institutions européennes à Bruxelles. Il y en a qui le font, et c'est très respectable, bien sûr, et il le faut. Mais moi, ça n'était pas ma façon de voir l'Europe. J'ai toujours eu le goût du service public, de servir l'État en France, et je ne crois qu'il n'y a aucune contradiction, au contraire, entre le service de l'État, l'intérêt qu'on a pour son pays, et l'engagement européen, parce que moi je crois que c'est la meilleure façon de renforcer la France.
Citoyen français, citoyen européen, et par définition citoyen du monde.
Oui, même si cette formule me paraît toujours un peu vague, pour être tout à fait honnête, donc j'aime mieux l'idée de me dire français et européen, français d'abord, ensuite européen, et curieux, ouvert, sur d'autres cultures. J'ai un sentiment, une faiblesse, puisqu'on parlait de Saint-Valentin et de sentiments personnels pour la culture européenne, les paysages européens, les voyages européens, quand on peut les faire. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que tout cela reviendra. Et puis, le grand monde, le vaste monde, je le connais un peu moins, mais non plus, ça ne me paraît aucunement contradictoire. Mais un vrai sentiment européen qui renforce ma fibre française.
Je le rappelle, donc, Carrefour de l'Europe en audio sur le réseau mondial de RFI et en vidéo, en direct du grand studio de RFI sur la page Facebook de RFI, sur le site RFI, sur la chaîne YouTube RFI. À mes côtés, virtuellement, me parlant Covid oblige, deux consoeurs. Bonsoir, buonasera, Anaïs Ginori.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante à Paris du grand quotidien La Repubblica. Et nous vous surprenons en Italie, où vous êtes allé vous ressourcer quelques jours, en Italie, où l'ancien président de la BCE vient d'être nommé Premier ministre. Il s'agit évidemment de Mario Draghi. Peut-être qu'on l'abordera de manière parallèle à un moment ou à un autre de l'émission. Bonsoir, Clémentine Forissier.
Bonsoir.
Vous êtes la rédactrice en chef du site contexte.com, le site des politiques françaises et européennes, l'ai-je bien dit ?
Oui, vous l'avez bien.
Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Sacha Michel. Alors, Clément Bonne, c'est Clémentine Forissier qui vous pose la première question.
Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Les trois premières années quinquennat, vous avez travaillé aux côtés d'Emmanuel Macron, dans l'ombre, mais vous étiez central dans le dispositif. Depuis 6 mois, vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes. Vous êtes toujours aussi central. À part que vous êtes très activement sur l'Europe, qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre vie et dans votre compréhension de l'Europe ?
Alors, si j'ai bien compris, je crois que c'est un petit peu sauté dans ma vie, dans ma compréhension de l'Europe. Alors, ma vie, c'est à la fois les mêmes sujets, vous avez raison, mais très différents. Parce que quand on est conseiller, même si on est proche du président et donc de celui qui, par notre constitution et par son engagement aussi auprès des Français en 2017, est leader sur les sujets européens, évidemment, et siège au Conseil européen, on est que son conseiller, si je puis dire. Je ne dis pas ça du tout pour minimiser l'importance de la charge, mais parce qu'on n'a pas de responsabilité directe et personnelle. C'est ça qui change fondamentalement. Et d'ailleurs, c'est sain comme cela. On donne des conseils, on donne une information, on transmet des idées, on écrit parfois des textes, des notes, des discours. On assiste le plus efficacement que l'on peut. Mais quand on est membre d'un gouvernement, on a une responsabilité politique directe, dans un collectif, devant le Parlement. Moi, je ne suis pas élu, mais évidemment, je suis responsable avec le gouvernement devant les parlementaires, devant les élus de la République. Et donc, c'est très concret. Vous devez répondre, vous devez rendre des comptes, vous devez expliquer publiquement. Et donc, c'est ça qui change fondamentalement. C'est très exaltant parce qu'il faut aller au combat politique sur l'Europe. Moi, c'est ça qui m'anime et qui m'intéresse. J'ai beaucoup fait en coulisses, si je puis dire, pour essayer de nourrir le président le plus utilement possible et de l'aider à faire avancer son combat. Il l'a défini, il le mène sans avoir besoin de moi. Mais j'ai essayé de le faire à ses côtés. Et maintenant, j'essaie toujours de donner des idées et des avis. Mais évidemment, c'est dans un collectif gouvernemental avec une responsabilité. Je crois que c'est vraiment ce mot qui couvre beaucoup de choses, l'exposition publique, l'engagement politique, mais c'est la responsabilité.
Et puis quand on est
ministre,
de temps en temps, on rencontre des citoyens, ce qui fait qu'on ne rencontre jamais que lorsqu'on n'est sherpa, conseiller du président, on rencontre que des professionnels de l'Europe. Quand on est ministre, à un moment, on rencontre des pêcheurs, on rencontre des agriculteurs, on rencontre des étudiants, des lycéens qui doivent vous interpeller sur l'Europe.
Oui, on doit leur rendre compte aussi, même sur beaucoup de sujets. Quand on s'occupe d'Europe, on touche à la question de la pêche, on touche à la question de l'agriculture, on touche à la question de la relance industrielle. Donc, bien sûr, c'est ça que je trouve aussi le plus motivant. C'est que quand il y a eu la négociation sur le Brexit, c'était pas simplement une négociation par visioconférence, coup de fil ou parfois quelques rencontres physiques encore ces derniers mois. C'était aller avant les conseils européens, dire aux pêcheurs ce qu'on défendait de manière transparente et publique avec la presse, de les tenir au courant à chaque étape de la négociation entre les visites les plus visibles. Et puis après, moi j'y suis allé avec la ministre de la Mer dans chacune des trois grandes régions, avec Jean-Yves Le Drian aussi en Bretagne, concerné par le Brexit, dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne, leur expliquer ce qu'on a conclu comme accord en essayant de défendre leurs intérêts. Donc c'est cette espèce de cycle d'informations, explications et surtout vraiment de responsabilité du fait de rendre des comptes que je trouve difficile, mais qui est la vraie différence, et c'est normal, quand on passe du côté politique, au sens actif du terme, au sens noble du terme, on doit faire ce travail de contact, d'explication, et puis de confrontation démocratique par le débat d'idées, par le débat avec d'autres responsables politiques au Parlement ou ailleurs.
Clément Beaune, nous allons faire un petit tour de l'actualité européenne avant de décrypter quelques concepts qui vous sont chers, comme par exemple l'autonomie stratégique, et voir avec vous comment l'Europe peut s'affirmer dans un monde en turbulence. Et l'actualité, c'est bien sûr les vaccins contre le Covid. Ils ont été précommandés par la Commission européenne. Plus de 2 milliards de doses pour, je rappelle, 450 millions de citoyens de l'Union européenne. Et ils arrivent, si ce n'est au compte-gouttes, du moins avec une certaine lenteur, même si les livraisons vont augmenter. Ces vaccins sont distribués au prorata de la population de chaque pays. Mais alors, pourquoi la France a vacciné environ 3,5% de sa population, je parle d'une première, des premières doses, alors quand le Danemark, par exemple, a déjà vacciné 7% de sa population, et entre les deux, la Roumanie est à peu près 5,5%. C'est un problème de répartition, finalement, entre les pays, ou c'est un problème d'organisation? Il y a des pays qui sont mieux organisés que d'autres.
Non, il y a des petites différences dans les stratégies de campagne de vaccination et du coup dans les rythmes. Mais quand vous regardez la situation des 27 pays de l'Union européenne, parce que vous avez raison, on compare souvent à l'extérieur, mais regardons ce qui se passe en Europe.
Et on est au carrefour de l'Europe.
Absolument. Et parmi les 27 pays de l'Union européenne, eh bien, la moyenne, c'est aujourd'hui 4% de la population. Donc vous voyez qu'on est, c'est les mêmes chiffres quasiment aujourd'hui à la virgule près entre l'Allemagne, l'Italie, la France. Il faut prendre en compte aussi le fait que nous avons une population en France un peu plus jeune que celle de nos grands voisins, que l'Italie et que l'Allemagne en particulier, que si vous rapportez la population de plus de 18 ans, la population adulte, nous avons des taux de primo-injection, ces premières doses de vaccins, qui est meilleur que celui de l'Espagne, de l'Italie ou de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair et juste et simple, on est au même niveau que nos voisins. En proportion de la population, à peu de choses près. Et dans les semaines qui viennent, parfois on sera un peu devant, peut-être parfois un peu derrière. On a d'ailleurs les mêmes stratégies de vaccination en termes de public prioritaire que l'Allemagne, par exemple, ou que l'Italie, c'est-à-dire les personnes qui sont dans, en France, les EHPAD, qui sont les plus âgées, qui ont des comorbidités ou des risques élevés, les personnels soignants aussi. Et comme en Allemagne d'ailleurs, sur certains vaccins, je pense à AstraZeneca, aujourd'hui ce seul vaccin, puisqu'il y a de nos autorités de santé une recommandation de ne pas l'utiliser pour les personnes de plus de 65 ans, on a adapté nos stratégies, comme l'Allemagne exactement, pour cibler avec ce vaccin-là des personnes de moins de 65 ans et les personnels soignants en particulier.
Alors justement, au cœur de la polémique des vaccins, il y a AstraZeneca. Après enquête, cette entreprise anglo-suédoise a-t-elle privilégié le Royaume-Uni aux dépens de l'Union européenne ou pas? Alors, on peut rappeler que l'Union européenne a commandé 300 millions de doses qu'elle a un peu de mal à obtenir.
Alors, vous avez raison de le rappeler. D'abord, nous avons commandé des montants, des volumes très significatifs de doses avec l'ensemble des grands laboratoires. Et ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, quand on voit qu'un vaccin fonctionne et qu'on en a besoin de davantage, je pense à Pfizer-BioNTech, nous re-signons un contrat. On avait 300 millions de doses avec Pfizer-BioNTech. On a rajouté, cette semaine même, une commande de 300 millions de doses, ce qui veut dire 75 millions de doses qui vont arriver, dont 15% pour la France. Donc, c'est plusieurs millions de doses supplémentaires dès le mois de la fin du mois de mars. Sur AstraZeneca, il y a eu un problème spécifique. Ce laboratoire a annoncé à l'Union européenne qu'il avait des retards importants par rapport à ses prévisions.
Mais pas pour le Royaume-Uni.
Alors, justement. Et la Commission européenne, puisqu'on dit que l'Europe ne défend pas ses intérêts, etc., là, je crois que c'est très important, a été très ferme, très dure même, avec notre plein soutien, pour dire au laboratoire, écoutez, vous ne pouvez pas juste nous dire cela, il faut qu'on regarde. Il peut y avoir des problèmes industriels, on peut le comprendre. C'est un vaccin qu'on a développé en quelques mois, c'est déjà une excellente nouvelle en soi. Donc on peut comprendre des retards industriels. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est deux choses. Un, que les contrats ne soient pas respectés. Ceux qui disent, on n'a pas payé assez cher, etc., dire tout ça est une fable. Parce que quand vous signez un contrat, vous achetez une voiture ou une maison ou autre chose, vous allez au supermarché, c'est une forme de contrat quand vous avez un ticket de caisse à la fin, vous payez un produit et il vous est fourni. Bon. Donc une fois qu'on l'a signé, de part et d'autre, le contrat engage. Et donc on ne peut pas dire, bah, écoutez, je ferai comme je peux, etc. Donc on a des engagements de livraison par trimestre, un prix qui a été payé, qui n'est pas complètement irrationnel par rapport aux autres contrats internationaux et moins cher que beaucoup de pays, mais parce que l'Europe a acheté beaucoup plus à 27, c'est un avantage. Et donc la Commission européenne a dit on ne peut pas accepter ces retards par rapport aux contrats. Deuxième chose, c'est que s'il y a un problème industriel, encore une fois, ça peut arriver, ça peut se comprendre. Il faut essayer de le résoudre plus vite, mais on ne peut pas accepter que dans le même temps, les livraisons continuent au même rythme, voire plus pour d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni. Donc ce qu'on a dit, nous avons rendu le contrat public, donc vous voyez la transparence que nous avons demandé à la Commission européenne est utile, on voit que dans le contrat avec AstraZeneca, on peut mobiliser les usines en Europe, mais aussi les usines au Royaume-Uni. Donc nous avons dit au laboratoire, s'il y a un problème, expliquez-le nous, et nous menons une investigation sur site, sur place.
Donc vous avez été convaincu.
Et nous avons déjà, par cette pression exercée, augmenté le nombre de livraisons au premier trimestre. Ce n'est pas encore ce qu'on espérait, mais on continue cette discussion. Et puis on surveille, dernier point qui me semble très important, pour que l'Europe défende ses intérêts et celles de ses citoyens à la fin, c'est que nous vérifions les exportations pour s'assurer que, de manière transparente, nous rendrons compte, la Commission européenne rendra compte de cela, il y a des exportations qui ne sont pas excessives, démesurées vers d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni. Et depuis que ça fait 10 jours, on a mis en place un mécanisme de contrôle des exportations. 35 entreprises, sites de production, ont demandé des autorisations d'export vers d'autres pays. Ça a été vérifié. Ça ne se faisait pas au détriment de l'Union européenne, donc nous les avons acceptés. Mais s'il y avait un problème, nous pourrions désormais les bloquer si c'était nécessaire.
Polémique et contre-polémique en Grande-Bretagne. Nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell. Sacha Mitchell, on vous cherche, on vous attend. C'est l'affaire de quelques secondes. Sacha Mitchell. Ah bon, alors. Tant pis, nous allons.
Bonjour, monsieur le ministre.
Ah ben voilà, il est là,
alors,
il est là.
Fin janvier, Bruxelles s'est engagée dans une sorte de bras de fer avec l'entreprise AstraZeneca. À l'époque, la Commission européenne reprochait à AstraZeneca, qui est basée au Royaume-Uni, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en annonçant ne pouvoir livrer qu'un certain nombre de doses de vaccins contre le Covid au premier trimestre 2021, un nombre de doses qui était bien inférieur à ce qui avait été fixé avec l'Union européenne. Alors les choses se sont un peu envenimées avant de s'améliorer, mais dans la presse britannique, une analyse s'est dégagée, et à savoir que l'Union européenne faisait porter la responsabilité de l'échec de sa lutte contre l'épidémie, ou en tout cas ses erreurs, sur AstraZeneca, et que tout cela participait d'un anti-britannisme sur fond de Brexit. Alors même des journaux assez europhiles, voire très europhiles comme The Observer, étaient d'accord avec cette analyse et la partageaient. Alors est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans? Est-ce que l'Union européenne regrette les Britanniques? Est-ce qu'elle n'a pas encore digéré leur départ? Et est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres bisbilles de la sorte, soit avec des entreprises britanniques, soit avec le gouvernement, avec Londres lui-même?
Alors Clément, la Grande-Bretagne, une bonne excuse pour le démarrage, disons, laborieux de la vaccination au sein de l'Union européenne?
Non,
alors, on peut rappeler que le niveau de vaccination au Royaume-Uni, c'est autour de 20% pour la première dose.
Je voudrais quand même rappeler quelques vérités, parce qu'on compare beaucoup au Royaume-Uni. D'abord, si on regarde les chiffres, hein, puisque c'est là-dessus qu'on fonde le débat régulièrement, à juste titre. Si on regarde les chiffres précis, oui, le Royaume-Uni est plus rapide sur un certain nombre de populations et utilise massivement notamment le vaccin AstraZeneca. Mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le nombre de personnes qui ont reçu 2 doses de vaccin, donc qui sont complètement vaccinées, hein, puisque tous les premiers vaccins sont des vaccins à 2 injections, il y en a moins en Royaume-Uni qu'en moyenne dans l'Union européenne et moins qu'en France. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni a étalé beaucoup le délai entre les 2 injections, notamment de ce vaccin. Je ne dis pas que ça vient de nulle part. Il y a des scientifiques qui le recommandent, mais pas nos autorités de santé en France, en Allemagne et dans la plupart des pays européens. Donc nous suivons les recommandations des scientifiques qui ne nous disent pas d'aller jusqu'au délai de parfois 12 semaines entre les 2 injections que font les Britanniques. Donc moi, je le dis objectivement, ce n'est pas une polémique, ils prennent plus de risques. Quand vous regardez les 2 injections, eh bien aujourd'hui, il y a plus de vaccinés à 2 injections dans l'Union européenne et en France en particulier qu'au Royaume-Uni. Ensuite, tout cela n'a rien à voir avec le Brexit. Les Britanniques, ils ont, si je puis dire, mis le pied sur l'accélérateur parce qu'ils ont pris plus de risques, parce qu'ils avaient une situation sanitaire très dégradée. Il faut regarder aussi l'ensemble de l'image. Aujourd'hui, à court terme, ça n'est pas la seule vaccination qui nous protège de la Covid, si je puis dire, malheureusement. On doit prendre encore des mesures de distanciation, de restriction, de fermeture de certaines activités, comme on le sait, comme on le subit malheureusement dans nos vies aujourd'hui. Bon, et je crois qu'au total, quand vous regardez cette stratégie sanitaire, vaccination, précaution, nous sommes dans une situation meilleure, qui a été, je crois, mieux gérée que chez beaucoup de nos partenaires, et notamment qu'au Royaume-Uni. C'est tout cela qu'il faut regarder. Maintenant, il ne faut pas dire tout va bien. Quand il y a une perception et une impatience, il faut y répondre. Bon, et le sujet, ça n'est pas le cadre européen, comme on l'a dit parfois. Je rappelle que si chaque pays avait fait affaire avec son propre laboratoire, peut-être la France avec Sanofi, on n'aurait pas de vaccin aujourd'hui. Bon, donc merci l'Europe à beaucoup d'égards. Et on a besoin aussi de vacciner en même temps chez les différents voisins parce qu'il y a de la circulation, quoi qu'on fasse, entre des pays qui ne sont pas des îles sur le continent européen. Bon, donc ça, c'est très important. Et je pense que cette stratégie a été bonne. Il y a un point qui fait problème et sur lequel on doit accélérer. On ne va pas se contenter de regarder. On accélère, et la Commission européenne le fait depuis quelques jours, ce sont les capacités de production. Si on veut produire plus, plus vite, et je le disais, on va quand même vite par rapport à ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines, il faut produire plus, avoir des capacités de production. Ça ne se fait pas en quelques jours, et on a commencé à le faire depuis l'année dernière. Mais il faut accélérer cette augmentation des capacités de production en Europe. On le fait de manière très pragmatique. Je prends un exemple qu'a annoncé le président de la République il y a quelques jours. C'est que des sites de production pharmaceutiques en France vont faire les dernières étapes de vaccins, parfois de concurrents. CureVac, bientôt, Moderna, Pfizer. Même Sanofi a annoncé qu'à partir de cet été, il produirait la dernière étape en Europe du vaccin Pfizer pour aider, pour qu'il y ait une mobilisation générale, au-delà des réflexes de concurrence habituels, pour faciliter la production. C'est dans la capacité de production qu'on accélère le nombre de vaccins produits et leur livraison.
C'est un peu la fable du lièvre et de la tortue. À la fin, c'est la tortue qui arrive la première, c'est ça ?
Non, c'est pas une course de lenteur ou un choix de la lenteur. C'est un choix de la précaution et du suivi des recommandations scientifiques. C'est très important. Un exemple simple. La Haute Autorité de Santé, je le disais, nous dit en France, et la même autorité en Allemagne dit la même chose, il vaut mieux pas utiliser le vaccin AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans parce qu'on a des doutes sur l'efficacité. Il y a d'autres autorités scientifiques dans le monde, même l'OMS qui dit allez-y au-delà de 65 ans, donc il y a un débat entre scientifiques, mais nos autorités nous disent cela. On suit leurs recommandations. Et on a commencé par des publics ciblés, on n'a pas pris de risque avec l'espacement entre les injections. Prudence, précaution, et quand on peut accélérer, bien sûr, on accélère, mais ça se joue dans la production aujourd'hui. C'est là-dessus que j'insiste.
Alors, le Covid a bouleversé les déplacements des Européens en Europe et en dehors de l'Europe. Clément Beaune, en ce moment, il y a des dizaines de milliers d'auditeurs qui vous écoutent en France, en Europe, en Afrique et dans le reste du monde. Alors, s'ils veulent se déplacer, quelle est la règle et est-ce qu'il y en a une ? Alors, est-ce qu'il y a une règle européenne ? Parce qu'on a l'impression que chaque pays fait un peu comme il l'entend, au moins à l'intérieur de la zone Schengen. Parce que pour ce qui est de l'extérieur de la zone Schengen, la frontière de l'Europe, là, elle est fermée.
Oui, absolument. On peut faire mieux en termes de coordination, je le concède, mais sur un sujet qui n'avait jamais fait l'objet de discussions européennes, parce que ce virus, personne ne l'imaginait. Ce qu'on est en train de décider au quotidien, parfois même dans nos pays ou dans certaines régions. Je rappelle que dans certains pays, il n'y a pas de coordination nationale. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Mais il y a désormais un cadre commun, des recommandations communes au niveau européen.
Quelqu'un qui veut se rendre, par exemple, de Côte d'Ivoire en France,
oui.
Par exemple, qu'est-ce qui se passe
alors,
pour lui ?
Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Pour être très clair, parce que depuis le 17 mars 2020, ça c'était une décision de coordination européenne que la France a poussée avec l'Allemagne, les frontières Schengen sont fermées. Quand on dit fermées, il y a quelques dérogations. Les dérogations qui existaient entre mars 2020 et il y a encore quelques jours, c'était que vous pouviez avoir des motifs légitimes, notamment pour nos ressortissants, de revenir dans le pays. Maintenant, nous avons restreint la liste de ces motifs. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, par exemple, et que vous voulez revenir en France, il faut un motif impérieux. C'est disponible en ligne pour le vérifier. Typiquement, une convocation judiciaire, un événement familial très grave, un décès, par exemple. Donc, il y a quelques motifs qui peuvent justifier un déplacement. Mais la règle, avec très, très, très peu d'exceptions, c'est que vous ne pouvez pas partir de France vers un pays hors espace européen, venir de Côte d'Ivoire ou d'un autre pays qui n'est pas dans l'espace européen, vers la France ou vers l'espace Schengen en général.
Alors un mot quand même, Clément, sur le plan de relance, 750 milliards d'euros financés par un emprunt européen et c'est une grande nouveauté. Emprunt commun qui va générer une dette commune qui devrait être remboursée par des ressources communes, même si pour l'instant c'est pas encore très très net, hein, ça peut évoluer. Alors
ça avance.
Ressources communes, c'est par exemple une taxe carbone aux frontières, un impôt sur le numérique. Ce plan de relance, il patine un petit peu et pourtant il est très très attendu, notamment en Italie, Anaïs Ginori.
Oui, justement, vous disiez ça avance. L'Italie est un peu en retard dans la préparation du programme de mesures qui doit être présenté à Bruxelles pour accéder aux fonds européens. Est-ce que ça peut avoir un impact, à votre avis, sur l'objectif initial prévu pour faire arriver les fonds européens à l'été, cet été prochain ? Et est-ce que vous avez déjà eu, le gouvernement français a déjà eu des contacts, des échanges à ce sujet avec le nouvel exécutif de Mario Draghi ?
Alors, bonsoir. Il y a effectivement un nouveau gouvernement en Italie qui a prêté serment hier, présidé par Mario Draghi. Le président de la République a eu l'occasion de le féliciter, y compris publiquement. Et je crois que la relance sera un des grands sujets qu'on portera avec ce nouveau gouvernement, avec Mario Draghi et son équipe. Et vous le savez mieux que moi, mais ce sera une grande priorité, peut-être la priorité avec la crise sanitaire, cette relance économique à préparer, à accélérer de ce nouvel exécutif italien. Et je souligne d'ailleurs que nous avons mené ce combat ensemble avec l'Italie. Et je veux rendre hommage à cet égard au gouvernement sortant de M. Conte. Nous avons bataillé ensemble, France et Italie principalement, dans un premier temps d'ailleurs en mars dernier, il y a quelques mois, pour faire advenir ce plan de relance. Maintenant, on l'a bâti en très peu de temps, ce plan de relance, hein. Initiative franco-allemande après ces premiers combats franco-italiens difficiles contre d'autres pays en mai dernier. Juillet, il a été adopté. Il y a un temps démocratique qui a été le temps de la négociation avec le Parlement européen. C'est parfois un peu long, mais c'est la démocratie européenne aussi qui a abouti en fin d'année 2020. Et maintenant, il faut une ratification. On parle quand même de 750 milliards d'euros qui vont être remboursés sur 30 ans. Ce n'est pas une petite affaire, tant mieux. C'est normal, chaque Parlement national, le Parlement français l'a fait il y a quelques jours, parmi les premiers, l'Italie l'avait fait quelques jours avant, a ratifié ce plan de relance européen. Moi, j'espère, je suis encore plus optimiste que oui, les fonds vont arriver par ce plan de relance européen dès l'été.
L'été 2021 ?
C'est l'objectif qu'on s'est fixé depuis quelques semaines.
C'est bientôt l'été.
Oui, bien sûr, c'est bientôt et à la fois c'est urgent, donc il faut aller vite. J'espère même qu'on pourra avoir de premiers financements. Je vais être optimiste, je prends ce risque, mais il faut se battre pour dès le mois de mai. Quand le processus de ratification sera terminé, je rappelle pour montrer aussi que le sens de l'urgence est partagé. D'habitude, on met 2 ans. Pour ratifier ces décisions européennes de financement du budget. Là, pour la relance, on va mettre sans doute 4 à 5 mois pour que 27 pays, 40 parlements ratifient. Donc, bien sûr, parfois moi aussi je suis frustré, il faut aller plus vite, mais on a quand même mis l'accélérateur, le booster, si je puis dire, pour aller vite, parce qu'on a besoin de cette relance. Et il y a un point qui est très important, c'est que, je veux le dire, d'ores et déjà, le plan de relance européen a un effet dans nos stratégies et nos plans de relance nationaux. Parce que le plan de relance français, et c'est la même chose en Italie, le plan de relance français, 100 milliards d'euros, qui a été mis dans la loi de finances pour 2021, qui a commencé à décaisser dès fin 2020. Hein, plus de 10 milliards d'euros ont été engagés sur ce plan de relance français. Il sera remboursé et abondé à 40 milliards d'euros, même un peu plus, par l'argent de l'Union européenne. Si on n'avait pas cette garantie d'avoir les 40 milliards d'euros qui vont arriver, le plus vite possible, mais qui vont arriver parce qu'on en est sûr, on n'aurait pas pu faire un plan de relance à 100 milliards. Et donc le plan de relance qui a commencé, il est déjà permis, amplifié par l'argent européen. Donc cet effet économique, il est déjà là. Moi, je veux le dire, dans chaque projet du plan de relance français qu'on inaugure aujourd'hui, qu'on lance aujourd'hui, il y a de l'argent européen et ça nous aidera, ça nous a déjà aidé à lancer cette relance.
Alors il y a néanmoins des pays, la Hongrie, la Pologne, qui bataillent pour retarder un petit peu la mise en place de ce plan de relance parce que ce plan de relance est conditionné au respect de l'état de droit et ils bataillent tant qu'ils peuvent.
Ils ont bataillé.
Ils bataillent encore.
Oui, enfin, on s'est mis d'accord au mois de décembre. C'est un peu ça qui a ralenti de quelques semaines aussi le plan de relance en fin d'année 2020. Mais on y est arrivé parce que nous n'avons cédé ni sur l'ambition de la relance, ni sur l'exigence de l'état de droit. Et ça, c'était pour nous une condition absolue, sine qua non. On a fait pour la première fois, on ira plus loin j'espère dans l'avenir, mais on a fait pour la première fois un lien entre l'argent européen, notamment ce plan de relance, et le respect de certaines valeurs fondamentales. Ce n'est pas des gadgets, c'est les valeurs fondamentales du type l'indépendance de la justice. C'est le minimum dans un projet politique
mais
commun.
Le respect de l'état de droit pose un vrai problème en Europe aujourd'hui, quand deux pays, la Pologne et la Hongrie, ne le respectent pas. Par exemple, en Hongrie, ce soir à minuit, la radio Club Radio, qui est une grande radio pas très favorable à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, va cesser d'émettre, parce qu'évidemment, il y a une astuce administrative qui a permis à Viktor Orban de fermer cette radio. Ça pose quand même un problème sur comment l'Union européenne peut faire respecter son état de droit au sein même parmi les 27 pays. Ça pose un vrai problème.
Oui, c'est très grave. Sur le fond, d'abord, ce qui se passe, la fin de cette radio libre en Hongrie et ce qui se passe en Hongrie, comme en Pologne à certains égards, dans l'indépendance des médias ou l'indépendance de la justice que j'évoquais, est très préoccupant.
Et
très
préoccupant. L'Union européenne est paralysée, car il faut l'unanimité pour remettre en cause...
Pas tout à fait. Justement, on a les mécanismes de sanctions qu'on a aujourd'hui, honnêtement, quand ils ont été créés, on ne pensait pas en avoir besoin un jour. Donc ils sont très verrouillés. Et à la fin des fins, pour la sanction, il faut, vous avez raison, l'unanimité. C'est aussi pour ça que c'était si important et que ces deux pays étaient si hostiles de créer un mécanisme de conditionnalité, comme l'on dit, entre l'argent, les fonds européens et le respect des valeurs. Autrement dit, si vous ne respectez pas certaines valeurs, plus d'argent, on suspend ou même on arrête complètement. Ça, c'est ce qui est prévu et c'est aujourd'hui le cas, c'est voté, c'est législatif dans le mécanisme nouveau qu'on a créé en fin d'année. Et ce mécanisme-là, il ne fonctionne pas à l'unanimité. C'est pour ça qu'il était si important. On renforce, autrement dit, nos outils de lutte pour l'état de droit, pour le respect de l'état de droit en Europe. C'est un débat d'ailleurs qui, il y a 2-3 ans, alors même qu'il y avait déjà des dérives, n'intéressait personne. On l'a fait monter, je crois, en puissance, parce qu'on ne peut pas tolérer que dans notre Union européenne, il y ait de la solidarité. Moi, j'y suis farouchement favorable à l'égard de la Pologne, de la Hongrie et d'autres pays, budgétaires notamment. Moi, j'y suis très favorable. J'explique que ce n'est pas facile aux contribuables français, aux parlementaires français, que oui, on doit payer pour le budget européen parce que ça ouvre des marchés aussi, c'est bon pour nos entreprises, mais ça aide ces pays-là. Et en échange, si je puis dire, le minimum du minimum, c'est de respecter nos valeurs politiques partagées qui font l'Europe.
Aujourd'hui, la Hongrie serait candidate pour rejoindre l'Union européenne. Elle ne pourrait pas, elle ne serait pas admise.
Écoutez, j'ose espérer que si, mais là où vous avez raison, c'est qu'on est très exigeant. On est très exigeant pour l'entrée dans l'Union européenne. On le voit avec des pays qui sont à la porte aujourd'hui, qui frappent à la porte. Et on a raison très dure dans le respect de certains critères d'indépendance de la justice, de lutte contre la corruption, d'indépendance des médias, par exemple. Et quand on est dans l'Union européenne, c'était le paradoxe jusqu'à présent, on avait très peu d'outils pour s'assurer que ces valeurs demeurent, soient pleinement respectées. Eh bien, je le regrette, mais malheureusement, on peut être dans l'Union européenne et ses droits, les bafouer ou les remettre en danger. Autrement dit, la leçon de tout ça, c'est que même en Europe, dans notre projet politique, ces droits ne sont jamais acquis. C'est un combat, c'est un de mes combats, c'est un combat que la France mène parce qu'on doit en parler, on doit renforcer nos outils pour sanctionner. On ne peut pas tolérer, sinon les citoyens ne croiront plus à l'Europe, que l'Europe, c'est un club simplement budgétaire.
Comment ils peuvent croire à l'Europe quand on apprend par exemple... il y a 2 jours, que le Luxembourg, 600 000 habitants, abrite 140 000 entreprises, en tout cas référencées au Luxembourg, une pour 4 habitants, et que 90% de ces entreprises n'ont qu'une activité au Luxembourg. Ce sont simplement des boîtes aux lettres pour payer moins d'impôts ou pas du tout d'impôts. Comment les citoyens européens peuvent croire justement à cette Europe qui, évidemment, quand les impôts ne sont pas payés dans le pays, forcément, le budget est plus difficile à tenir et ça mine les bases même de la démocratie de chaque pays.
Oui,
c'est et là encore, c'est la règle de l'unanimité, ça y est, je l'ai dit, qui empêche toute évolution possible de l'Europe.
Vous avez raison. D'abord, il y a eu une enquête de presse. Il faut regarder les choses. On ne condamne pas sur la base d'une enquête. Il faut regarder les choses très précisément. Je crois très sincèrement qu'il y a eu des progrès sous pression médiatique de l'opinion européenne au Luxembourg ces dernières années sur les questions bancaires ou la transparence fiscale. Et puis, il faut faire du ménage en Europe en général.
Mais parce qui va faire du ménage en Europe ?
Attends, j'y viens. On se bat pour ça. D'abord, on a renforcé un certain nombre. Parfois, c'est technique, mais en fait, ça change beaucoup les choses. On a mis fin au secret bancaire. On a augmenté les transmissions obligatoires d'informations. On l'a au niveau français, on va l'avoir au niveau européen, avoir plus de transparence sur les données clés, notamment le paiement de l'impôt des entreprises. Et la Commission européenne, avec notre plein soutien, on l'a vu dans le cas de grandes entreprises du numérique, parce que c'est une autre forme de dumping fiscal, bataille pour que, en Irlande par exemple, ça a été le cas aussi aux Pays-Bas ou au Luxembourg, des entreprises qui payent très peu d'impôts soient assujetties à l'impôt normal, si je puis dire. Mais c'est tout un travail général qu'il faut faire de rapprochement fiscal pour pas qu'on ait des pays qui soient à moins de 10% d'impôts sur les sociétés et
mais
d'autres vers
30. C'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas du Luxembourg, c'est le cas de Malte, c'est le cas de l'Irlande.
C'est un ménage général qu'il faut faire et parfois ce sont à nos entreprises aussi que nous devons dire beaucoup plus durement peut-être par des sanctions, qu'on ne peut pas avoir de ce genre de comportement si on veut gagner la confiance.
Ces pays qui ont un tel comportement lorsqu'ils sont en dehors de l'Europe, on dit que ce sont des États voyous.
Non, alors, il ne faut pas tout mêler. Parce que d'abord, on a fait avancer un certain nombre de choses dans l'Union européenne et encore plus à l'égard d'autres pays, à l'égard de l'Union européenne. Nous avons des listes noires. Oui, très importantes en quelques années. Parce qu'il y a eu des révélations, parce qu'il y a eu des enquêtes de presse, parce que l'opinion a mis la pression, elle a bien fait, parce que les responsables politiques en ont pris l'engagement. Pierre Moscovici, à l'époque, s'était beaucoup battu là-dessus. Donc il y a des choses qui se sont passées. Je parlais notamment du secret bancaire. Mais il y a un sujet qui est, on appelle ça pudiquement, l'optimisation fiscale. Des choses qui ne sont pas illégales,
Pas tolérables pour les citoyens, pour les citoyens européens.
Il y a des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas justes du point de vue fiscal et du point de vue politique ou moral. Et c'est là-dessus qu'on doit changer nos règles pour imposer les entreprises du numérique à juste proportion de leur activité dans les pays où elles agissent et pas dans un pays qui les intéresse parce qu'elles y mettent leur siège et elles ne payent pas d'impôts ou quasiment pas. C'est pas que le Luxembourg le sujet du tout. Et ce travail-là, il est bloqué. Vous avez raison, en grande partie par l'unanimité. C'est pour ça que je crois qu'à terme, mais il faut être honnête, cela prendra du temps. Il faut mettre fin pour la fiscalité à cette règle de l'unanimité qui crée ce genre de situation. Et à court terme, il faut, je crois, mettre une pression très forte pour avoir de premiers succès concrets. Je pense à un succès concret qui est très important, c'est la taxation des entreprises numériques en Europe. Ça fait partie de ces mécanismes d'optimisation qui sont devenus intolérables, qui sont dans plusieurs pays européens. C'est légal, mais ça n'est pas juste sur le plan de l'action publique européenne.
On a l'impression que les faussaires ont toujours un peu d'avance, une longueur d'avance sur la loi.
Parce que c'est un combat permanent, mais... Moi, je veux pas qu'on utilise des grands mots comme ça. Il faut avoir des actions concrètes. La taxation numérique, c'est concret. La France se bat depuis 3 ans pour le faire. On a maintenant 24 pays, dont le Luxembourg, qui soutiennent cette taxation numérique. Ça n'était pas acquis. Il y en a 3 qui ont bloqué jusqu'à présent. J'espère qu'avec l'administration américaine nouvelle, nous pourrons avoir une solution à l'OCDE, c'est-à-dire une solution internationale pour ensuite avoir une règle européenne. Si ça n'était pas le cas, nous reprendrions ce dossier dans les tout prochains mois, même les toutes prochaines semaines, pour avoir une taxation numérique en Europe. Je crois que c'est possible et ce sera par un combat politique et de la pression politique. C'est comme ça que ça marche, par des ONG, par la presse et puis par le combat politique. C'est notre boulot, notre responsabilité d'acteur politique de mener ce combat. La taxation numérique avec Bruno Le Maire, c'est notre premier combat et ce sera au cœur de la présidence française de l'Union européenne qui arrive dans quelques mois.
Clément Beaune, longtemps les Européens ont cru que leur modèle, état de droit, respect des minorités ethniques, religieuses, sexuelles, ce que l'on appelle en gros les valeurs européennes, le tout dans une économie de marché régulée par l'État-providence comme un filet de sécurité. Longtemps, on a cru que ce modèle allait prospérer par capillarité. On est dans les années 90-2000. Or, ce modèle européen est de plus en plus combattu un peu partout dans le monde. C'est d'abord par la Chine, évidemment, mais aussi peut-être un peu plus marginalement par la Russie, par la Turquie. D'une certaine mesure aussi par les États-Unis, mais on va laisser de côté les États-Unis pour l'instant. Comment espérer que l'Europe puisse trouver sa place dans un monde qui lui est quand même de plus en plus hostile, dans le sens où l'idée de société démocratique fait de moins en moins recette. Alors, Emmanuel Macron a développé, grâce à vous peut-être, parce que vous avez contribué à cette réflexion, en expliquant que l'Europe devait devenir une puissance politique, une puissance économique, en développant le thème de la souveraineté européenne, en développant le thème de l'autonomie stratégique. Et sur ces questions, Clémentine Forestier a besoin d'une petite précision de votre part.
Oui, on rapproche la question de l'autonomie stratégique de la souveraineté. Comment on fait pour rendre cela concret?
Comment on fait, Clémentine?
Pour rendre ce concept concret.
Ah, comment on passe de la théorie à la pratique, en quelque sorte?
Oui, c'est vrai qu'on est parfois en Europe les champions des notions compliquées, ou d'un langage. D'ailleurs, la puissance européenne, ça passe d'abord par là, c'est-à-dire faire comprendre ce dont on parle. La souveraineté européenne, je crois que c'est concret. Qu'est-ce qu'on met par là? Qu'est-ce qu'on met derrière cela, pardon? C'est l'idée qu'on doit être plus fort vis-à-vis d'autres puissances dans le monde, tout simplement. Et que cela, on peut le faire ensemble. Que sur les grands défis contemporains, le climat, les nouvelles technologies, on a parlé récemment de la 5G, les relations commerciales, on l'a vu dans la relation avec les États-Unis ou avec la Chine, notre sécurité au sens strict, hein, militaire ou de cybersécurité, on a beaucoup d'attaques par exemple qui nous ciblent. Sur tout cela, il doit y avoir bien sûr des réponses nationales, mais elles ne suffisent pas. Il faut une action européenne. Pour moi, c'est ça la souveraineté européenne, c'est être capable de défendre ses valeurs et ses intérêts qui sont largement communs aux Européens. Pas à 100%, mais très largement communs aux Européens, et différents de ceux des autres grands acteurs internationaux, parfois relativement proches de nous par leur caractère démocratique, les États-Unis, mais ça n'est pas le modèle européen non plus, parfois beaucoup plus éloignés des puissances autoritaires comme la Russie, comme la Chine, comme la Turquie plus près de nous, qui n'ont pas le modèle européen, pour être clair, de démocratie, de débat, de compromis, de respect des droits individuels très stricts. C'est pour ça qu'on doit être aussi dur entre nous pour le respect parfait de ces règles. Si on ne fait pas tout cela au niveau européen, on ne saura pas le faire. Il faut être clair, c'est tout simplement ça la souveraineté européenne. L'autonomie stratégique, pour faire court, c'est à peu près la même chose. C'est l'idée qu'on doit définir nos intérêts nous-mêmes et les défendre d'abord nous-mêmes. Et pas demander l'autorisation à Washington ou encore moins à Pékin ou à Moscou. Bon. C'est révolutionnaire pour les Européens, au fond. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, sans être trop long, mais à très grands traits, depuis qu'on a lancé la construction européenne. Au début, c'était un projet de coopération sans puissance. On se remettait de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avions été libérés. Nous avons essayé de reconstruire notre Europe. Et on l'a fait en créant notamment les communautés européennes à l'époque, qui sont devenues l'Union européenne. Mais il n'y avait aucun projet de puissance là-dedans. Même exactement le contraire. On s'est dit, oulala, la puissance, ça a détruit l'Europe. Nous sommes désormais vaccinés contre cette dérive-là. Et donc, surtout, ne soyons pas puissants, sous-entendu agressifs, et cherchant à dominer les autres. Parce que nous nous sommes perdus dans l'aventure coloniale au XIXe siècle, dans les guerres mondiales, qui étaient largement des guerres européennes, entre Européens si dramatiques, au XXe siècle. Donc, arrêtons. On coopère gentiment, on fait du commerce, libre concurrence, ouverture commerciale, tout ça nous ira très bien. Et la puissance militaire et autres, c'est autre chose. C'est les Américains qui nous protègent via l'OTAN, puis c'est encore un peu les États. Bon. C'est ça le modèle post-45 à très grands traits. On sait aujourd'hui, depuis une dizaine d'années notamment, que ce modèle ne peut plus durer. Les Européens n'ont pas d'autre choix que d'assumer la puissance. S'ils ne le font qu'au niveau national, ce ne sera pas suffisant, je le dis franchement. S'ils le font sous tutelle américaine, ça n'est pas ce que l'on veut, et de toute façon, ça ne marchera plus, parce que les Américains nous disent, à juste titre, nous, on ne veut plus payer, comme on l'a fait dans le passé, pour votre sécurité. Et on dit, bah, très bien, construisons notre autonomie stratégique, notamment notre défense. Est-ce qu'on est au bout du chemin ? Pas du tout. On commence. Mais regardez ce qui s'est passé en matière de défense, pour prendre un exemple concret. Ces dernières années, il n'y avait rien en matière de défense européenne. Rien. C'était un tabou depuis les années 50. Il y avait des tentatives qui avaient tout échoué. Et on s'était toujours mis sous l'égide intégrale de l'OTAN et donc des Américains. Aujourd'hui, on doit garder l'OTAN et le réformer, mais on a fait des progrès en 3 ans majeurs sur la défense européenne. On a par exemple un budget européen de défense. Modeste, j'en conviens, 1 milliard d'euros par an, mais il va financer, cofinancer, nos projets de chars du futur, d'avions du futur, qu'on mène par ailleurs en coopération avec les Allemands. Si on n'avait pas ça, je le dis franchement, on ne construirait pas la défense européenne, et notre défense nationale, qui reste indispensable, ne serait pas suffisante.
Anaïs Genery, Clément Beaune vient nous dire que l'autonomie stratégique est une idée révolutionnaire, elle est surtout révolutionnaire pour les Français, car l'autonomie stratégique en Italie, ça veut dire quoi ? D'abord, est-ce qu'on en parle ? Est-ce que ça se traduit en italien, autonomie stratégique ? Est-ce que c'est pas un concept un petit peu fumeux, on va dire, qui plaît beaucoup aux Français, parce que effectivement, les Français sont toujours en pointe sur les questions de défense, et on associe un peu, peut-être trop, peut-être l'autonomie stratégique au problème de sécurité de défense.
Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que ce concept d'autonomie stratégique qui infuse, il faut reconnaître, ça a été porté par la France et ça infuse beaucoup dans les discours européens. Il est quand même traduit d'une manière assez différente selon qu'on passe en Allemagne, en Italie, ou même il peut susciter des inquiétudes si on va vers le nord ou vers l'est de l'Europe. Donc, ce que je voulais demander à mon ministre Beaune, c'est est-ce qu'il y a vraiment un plus petit dénominateur commun, et sachant que voilà, il y a certains pays, je parle évidemment de l'Italie, mais j'ai cité les pays du Nord et de l'Est, qui sont quand même encore très attachés au parapluie de l'OTAN.
C'est vrai, il y a des nuances et même des différences entre pays européens, il faut le reconnaître. Ça serait d'ailleurs impossible, impensable qu'il n'y en ait pas sur un sujet aussi sensible qui tient à notre histoire, à notre rapport à la puissance, à notre rapport au monde extérieur. Ce n'est pas le même en France, en Allemagne, compte tenu de l'histoire récente, ou en Italie, ou en Espagne, ou ailleurs. Donc, bien sûr, nous avons des diplomaties, des armées qui sont construites au niveau national, qui le resteront d'ailleurs durablement. Moi, je ne suis pas dans la caricature, il ne s'agit pas d'effacer la dimension nationale de notre sécurité, encore moins de nos armées, bien sûr que non. Mais on voit bien que chacun a pris conscience, et je trouve qu'il y a une accélération de l'histoire ces 3 dernières années notamment, 3-4 dernières années, quand on regarde par exemple ce qui se passe au Sahel. Je prends un exemple très concret. La France est intervenue seule, trop seule, au départ. Chacun maintenant a conscience en Europe, on en parle dans les sommets européens, vous me direz c'est des mots, mais ça compte, c'est la première étape, la bataille des idées. Chacun en Europe a conscience que sa sécurité, la sécurité de tous les pays européens, se joue notamment dans cette région du monde. Que quand on laisse le terrorisme prospérer dans cette région, ce sont à la fin des attaques, des attentats qui ne touchent pas que la France, beaucoup la France, mais pas que la France, malheureusement, nous l'avons vu encore récemment. Et donc c'est une question de sécurité commune, européenne d'ailleurs. Même si je trouve que c'est trop lent, il y a des pays européens, il faut rendre hommage parce que c'est pas facile, qui parfois sont très loin de ces préoccupations par leur histoire, par leur géographie. Je pense à l'Estonie. C'est tant qu'il y a 100 soldats estoniens qui aident sur des missions très lourdes, très difficiles, nos soldats au Sahel, au Mali. C'est extrêmement important. C'est tant qu'il y a une aide espagnole, qu'il y a des troupes tchèques ou suédoises dans les forces spéciales qui combattent ensemble au Sahel. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience que là se joue, comme sur d'autres terrains, notre sécurité commune d'Européens et qu'on doit s'en charger seul, hein. On fait ça avec une aide américaine, parfois d'appui, mais seul en tant que Français trop souvent, mais qu'Européen maintenant de plus en plus. Et ce sera l'avenir, j'en suis convaincu. Cette perception va se traduire progressivement en actes. C'est pour ça que je saluais les avancées sur un certain nombre de sujets budgétaires ou autres en matière d'Europe de la défense, parce que ça devient concret. Il faut maintenant accélérer, amplifier.
Travaux pratiques, que pensez de l'autonomie stratégique avec l'accord signé le 30 décembre dernier entre la Chine et l'Union européenne, un accord de principe sur les investissements, à un moment où la Chine pratique le travail forcé des Ouïghours, à un moment où elle muselle toute opposition à Hong Kong. Est-ce que on impose comme ça cette idée d'autonomie stratégique en se contentant d'un vague accord du président chinois, de dire bon, on va un peu améliorer l'état de droit en Chine? Mais il n'y a que peu de monde pour y croire, notamment les ONG n'y croient pas trop, et l'ensemble des députés européens. Par exemple, Stéphane Séjourné, que vous connaissez bien, il est le patron du groupe République En Marche au Parlement européen, on dit Renaissance Renew, il a dit qu'il ne signerait pas cet accord.
Ne voterait pas.
Ne voterait pas, pardon.
Je crois que c'est très important, parce que la relation à la Chine, c'est le point sans doute sur lequel les Européens ont fait le plus de progrès communs, en termes de lucidité, d'affirmation ces dernières années. En deux mots, il y a 5 ans, c'était le concours entre tous les pays européens pour attirer le maximum d'investissements chinois chez soi, sans regarder quel secteur était concerné, comment c'était géré, etc.
Ça s'appelle la grande naïveté.
Ça a été la grande naïveté, absolument. Ce temps-là est derrière nous. Est-ce que tout est réglé ? Non, mais ce temps-là est derrière nous. Vous allez dans n'importe quel pays européen, vous faites une interview avec un de mes homologues néerlandais, suédois, des pays très ouverts. Parfois, il y a beaucoup d'investissements étrangers, y compris beaucoup d'investissements chinois. Ils vous disent tous aujourd'hui, il y a un danger, il y a une menace, on doit être plus protecteur par des mesures commerciales, anti-dumping et autres. Et par ailleurs, on doit être beaucoup plus attentif à la question des droits humains, des droits sociaux et notamment au drame insupportable des Ouïghours et du travail forcé en Chine. Cet accord d'investissement, il est au cœur de ce débat. Que les Européens signent un accord sur des investissements, je rappelle quand même son contenu, qui est plus protecteur pour nos entreprises, ouvre plus de marchés, donc qui sort de la naïveté. C'est une étape vers la sortie de la naïveté commerciale à l'égard de la Chine. Qu'on ait été capable de le faire et que la Chine nous prenne au sérieux en tant qu'Européens, c'est déjà un changement fondamental. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? C'est tout le débat. Il y a des engagements qui ont été pris dans cet accord sur la ratification. Stéphane Séjourné en parlait ce matin, de conventions internationales interdisant le travail forcé. Et ce que dit le Parlement européen, il a raison, c'est... Il y a des engagements qui sont pris, nous verrons les actes. Et comme nous sommes une démocratie, c'est aussi une force, bien sûr. Ce Parlement européen, Renew comme d'autres groupes, il va voter, notre Parlement doit voter pour vérifier que les engagements sont sérieux. Et ce que a dit Stéphane Séjourné, ce qu'ont dit beaucoup de parlementaires européens, d'ailleurs de différentes sensibilités, c'est nous ne nous contenterons pas d'engagements, nous vérifierons qu'ils sont respectés. Ben ça, je crois que c'est l'affirmation de la puissance européenne, c'est bien.
Je voudrais volontiers poser une question sur la Russie de Vladimir Poutine, Navalny et puis Nord Stream 2, mais malheureusement pas le temps, donc peut-être une chance. Merci Clément Beaune en tout cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation audio Fabien Munieret, réalisation vidéo Soël Kedir, merci aussi à Clémentine Forestier, contexte.com, Agnès Ginori, La Repubblica et Sacha Michel, Courrier International. Pour retrouver ce Carrefour de l'Europe en audio et en vidéo, RFI.fr, rubrique podcast ou la chaîne YouTube RFI, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission, à la balade de diffusion, comme on dit si joliment au Québec, sur votre plateforme favorite. On reste en contact avec Facebook et Twitter. Daniel Lescalou, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal présenté par Adrien Delgrange. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Géopolitique, le débat.
Le 22 janvier dernier, entrait en vigueur le traité sur